Bonjour, je m'appelle Steven Jambeau et vous écoutez l'Atelier des médias.
RFI.
En décembre 2015, c'était l'euphorie. Après de longues heures de tractation, 195 pays étaient tombés d'accord. L'accord de Paris sur le climat était signé. Laurent Fabius, alors président de la COP21, s'exprimait à la tribune sous des applaudissements nourris. Les espoirs étaient grands, mais 3 ans plus tard, les promesses des politiques paraissent déjà loin. Les experts continue à publier des rapports inquiétants sur les changements climatiques alors que s'ouvre lundi la COP24 à Katowice en Pologne. Quid des journalistes dans tout ça? Comment informer sur l'urgence climatique?
C'est compliqué, on va pas se cacher. Il faut donner des faits et les faits parfois font un peu peur. Donc nous-mêmes en tant que journalistes, on doit apprendre à en parler en étant juste mais en expliquant aussi qu'il est possible d'avoir des réponses.
On ira également en Guinée avec Mondoblog Audio ou quand les blogueurs lâchent leur clavier pour s'emparer du micro. Mais tout de suite, on reçoit le hacker gentil Gaël Musquet. Bonjour Gaël Musquet.
Bonjour.
Vous êtes un hacker français, expert en gestion des catastrophes naturelles grâce aux moyens numériques. Et le ministère français de l'économie et des finances va bientôt vous remettre l'étoile de l'ordre national du mérite. En gros, vous allez être chevalier. Cette décoration récompense ceux à qui l'on doit des mérites rendus à la France, qu'ils soient civils ou militaires. Alors, on va rappeler que vous êtes à l'origine de l'association humanitaire HAND pour Hackers Against Natural Disasters, les hackers contre les catastrophes naturelles. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir cette récompense ?
Alors moi, c'est une grande fierté. Ce que je disais à mes enfants quand je leur ai annoncé au petit déjeuner vendredi, c'est qu'enfant, j'aurais jamais imaginé arriver à ce niveau-là. Je voulais juste être un petit directeur de centre météorologique. C'était mon rêve d'enfant. Et là, je réalise mes rêves d'enfant les plus fous. C'est aussi un retour aussi pour moi. Pour mon île, la Guadeloupe, hein, qui m'a vu naître, que l'on puisse, comme le disait un des scientifiques qui m'a le plus inspiré, Georges Raoul Nicolo, qui est le père des chaînes électrotechniques des centrales nucléaires françaises, que c'est aussi un moyen d'accomplissement pour les jeunes Antillais qui s'investissent dans les sciences et les techniques. Donc voilà, on rajoute une autre raison de parler de la Guadeloupe que juste des faits divers, du sport ou de la musique.
Et alors, je disais que vous êtes un hacker, mais vous vous qualifiez de hacker gentil. Qu'est-ce que ça veut dire?
Hacker éthique, hacker gentil, comme je dis souvent avec humour, parce qu'on parle malheureusement que des méchants. Voilà. Le hacker est avant tout quelqu'un bien intentionné. On parle malheureusement que des personnes mal intentionnées. Hacker, c'est douter. C'est détourner un système de son usage premier. Donc ça, c'est la définition générique, on va dire. On va essayer de comprendre comment fonctionnent les systèmes pour les améliorer, les rendre plus sûrs ou les faire fonctionner autrement. Il y a une autre définition qui est celle de Keren et Lazari, qui est une femme hacker justement, qui disait que le hacker est le système immunitaire de l'Internet. Et j'aime beaucoup cette définition parce que on a besoin en fait de personnes qui doutent, qui vont remettre en cause, remettre en doute en fait un système informatique, un système technique, parce qu'on n'est pas béat devant l'innovation. Il faut des personnes qui anticipent aussi quelles vont être les vulnérabilités induites par le progrès technique.
Si on essaye de rembobiner un petit peu, vous, dans votre enfance, vous avez été sinistré de l'ouragan Hugo en Guadeloupe en 89. Est-ce que c'est là qu'est parti votre volonté de vous engager et d'engager la société civile face aux catastrophes naturelles?
Tout à fait. Alors, j'étais victime d'un ouragan enfant en 89. J'ai pas été traumatisé par cet épisode-là parce que mes parents avaient tout prévu. Prévention.
Déjà,
tout à fait. Mon père est banquier, donc il avait prévu, on était assuré, il nous a compté à la fin, on a aidé nos voisins, on a fui notre maison pour aller justement se réfugier d'une part chez nos voisins et les aider à consolider la leur. Et j'ai eu un deuxième déclic, c'est 2010, le séisme en Haïti. Je commençais à contribuer au projet OpenStreetMap, projet de cartographie libre, et ça m'a permis en fait, pour la première fois, de mettre à disposition mes compétences scientifiques et techniques à disposition d'une cause humanitaire, d'une cause humaine.
Merci et bravo, Gaël Musquet. Je rappelle que vous allez bientôt être chevalier de l'Ordre National du Mérite. Et j'espère qu'on aura la chance de vous recevoir à nouveau dans l'émission.
À bientôt, merci.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr
En bref, misinformation, désinformation en français, c'est le mot de l'année 2018 selon le dictionnaire en ligne dictionary.com. Et signalons justement une initiative contre la désinformation. Elle a été lancée cette semaine au Nigeria où 16 médias sont associés pour le projet Crosscheck. Ils sont encadrés par le collectif First Draft et soutenus notamment par Google et Facebook. Un projet salutaire avec en ligne de mire les élections générales de février 2019. Un sondage du Pew Research Center a montré justement qu'un quart des Nigérians ont déjà partagé des informations en ligne en sachant pertinemment qu'elles étaient fausses. En France, les médias de l'audiovisuel public ont lancé un nouveau projet commun appelé Culture Prime. Culture Prime, c'est une offre culturelle 100% vidéo à laquelle participe RFI. Vous trouverez essentiellement ses contenus sur Facebook. Je vous invite notamment à regarder une vidéo de Culture Prime produite par France 24 qui présente l'action du danseur franco-congolais Bolewa Sabourin en faveur des femmes congolaises victimes de violences et notamment du viol comme arme de guerre.
L'atelier des médias.
Comme je vous le disais en début d'émission, la COP24, conférence internationale sur les changements climatiques, s'ouvre lundi à Katowice en Pologne. Je me suis rendu dans les locaux du site d'information reporter.net à Paris, où l'on s'active en vue de cet événement. Eh bien, bonjour à reporter.
Laurent Lavocat, Émilie Massin et Hervé Klemp et Charles et Marie sont en télétravail.
D'accord.
Et Marina, qui s'occupe de l'administration.
Je m'appelle Hervé Kempf et je suis rédacteur en chef de reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Une COP, est-ce toujours un moment particulier pour vous, qui travaillez quotidiennement et depuis longtemps sur les questions environnementales ?
Oui, c'est important parce que c'est un moment de mise en scène internationale de la question climatique. C'est des événements qui sont très bureaucratiques, très compliqués, très techniques, apparemment très froids, mais où se réunissent quand même des centaines, voire des milliers de gens, des diplomates, des experts, des écologistes, des scientifiques, et qui représentent en fait la communauté internationale qui se réunit, qui se met en scène. C'est une sorte de grand théâtre avec ses codes, ses règles, etc. Mais pour moi, c'est un l'aspect très précieux de représenter concrètement le débat climatique mondial et journalistiquement ça reste très intéressant. Moi personnellement j'en ai suivi plus de 10, donc il y a une excitation, c'est un peu ésotérique vu de l'extérieur, mais quand on est plongé dedans c'est tout à fait passionnant parce que l'enjeu fondamental est là.
Pour la COP24, reporter.net a décidé de faire un traitement en 3 volets, si j'ai bien compris. Vous intéressez aux victimes du dérèglement climatique, aux solutions et également aux ennemis du climat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ces 3 volets, ces 3 piliers peut-être ?
Victime, le mot est un petit peu fort, on hésite à l'employer, mais c'est montrer que le changement climatique, ça n'est plus quelque chose qui concerne seulement les générations futures. C'est quelque chose qui concerne les générations présentes et qui touche notre présent. Et qui touche notre présent aussi bien de gens des pays riches, comme dans les Alpes ou en Belgique, que des gens des pays pauvres, comme au Sénégal ou aux Philippines, par exemple. Donc ça, c'est le point de sortie. On n'est plus dans la projection dans l'avenir. La question du changement climatique et plus globalement du désastre écologique qui est en train de se produire, c'est du présent. Les solutions, c'est pour dire, on peut aller dans le bon sens. Il y a des moyens qui existent. On n'est pas impuissant, il n'y a pas de fatalité. Après, il faut la volonté politique de les mettre en œuvre, mais les solutions sont là et c'est ça qu'on va raconter. Et puis, les méchants, parce que la question climatique est en fait une question politique, et les questions politiques, c'est une question de conflit. Et c'est un conflit entre qui et qui ? Entre, on va dire, les partisans du vieux monde, ceux qui croient que la croissance résoudra tout, qui croient que la question de l'inégalité est secondaire, qui croient que l'essentiel, c'est de produire toujours plus, et ceux qui disent non, il faut envisager un rapport à l'environnement, un rapport entre les êtres humains différent, dans le sens d'une harmonie, du respect, de la sobriété, de la modération peut-être, dans l'enthousiasme, de l'énergie dans d'autres domaines. Et c'est cette confrontation qui est là et qui très concrètement s'incarne par le fait, par exemple, que les très grandes firmes, c'est bien documenté, émettent plus de gaz à effet de serre qu'énormément de gens, qu'au niveau mondial, les 10% les plus riches, quel que soit leur pays, émettent, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais émettent 30-40% des gaz à effet de serre, beaucoup plus en tout cas que les 80% de la population, que des régimes, des gouvernements comme ceux des États-Unis, M. Trump, ou maintenant celui du Brésil, M. Bolsonaro, ou en Russie, M. Poutine, ont une politique anticlimatique. Donc il faut le mettre en scène, il faut le raconter, il faut éventuellement le dénoncer, ça c'est pas forcément notre rôle en tant que journaliste, mais en tout cas donner les moyens d'explication pour que peut-être d'autres gens assument ce conflit et le portent.
Donner les moyens d'explication, ça passe aussi par faire preuve de pédagogie. Alors on dit souvent que les scientifiques doivent faire preuve de pédagogie. Les journalistes sont-ils aussi là pour faire preuve de pédagogie, ou en tout cas pour aider les scientifiques à faire preuve de pédagogie ?
Oui, surtout la question écologique, c'est à la base une question qui a très largement été portée par des scientifiques. Et en fait, moi par exemple, je suis un journaliste scientifique à la base, et beaucoup de journalistes qui sont intéressés à l'écologie sont souvent des journalistes scientifiques. Donc oui, on est un vulgarisateur. De toute façon, les journalistes sont aussi toujours un vulgarisateur. On le fait bien ou mal, on a des biais ou pas, c'est un travail compliqué, mais on est toujours des vulgarisateurs. Si par exemple on parle de la taxe carbone et des gilets jaunes, ça va passer par une étape d'expliquer la fiscalité, enfin bon, un certain nombre de choses. Et il en va de même pour le climat, pour la biodiversité. Donc oui, on a ce travail de vulgarisation à faire. Et même, vous voyez, Reporter, qui est un quotidien de l'écologie, où on a maintenant, on sait qu'on touche plus de 21 000 visiteurs par jour. Ça commence à être un grand public, mais c'est des gens qui sont très intéressés par l'écologie. On s'est dit aussi que c'est important de réexpliquer le changement climatique. On a fait l'autre jour un article très basique qui revient sur les 6 questions de base sur le changement climatique. Il faut faire la même chose sur la biodiversité. Il faut faire la même chose sur l'artificialisation des sols, par exemple. On a besoin, oui, de ce travail pédagogique, de réexpliquer en permanence. Ne serait-ce aussi parce que la question écologique gagne de plus en plus. Et il y a des personnes, par exemple, je suis sûr, parmi les millions de personnes des Gilets jaunes, il y a des gens qui ont un vrai intérêt pour la question écologique, mais qui n'ont pas forcément les clés de compréhension. Donc, il faut... j'ose pas dire il faut leur transmettre ces informations. Il y a aussi de plus en plus de jeunes qui viennent, et c'est une très bonne chose, c'est la vie. Et ben, chaque génération doit redécouvrir, doit réapprendre un certain nombre de choses. Donc ce travail, même pour un média un petit peu spécialisé, de toujours rappeler les fondamentaux et de trouver des manières nouvelles de le raconter.
Merci avec Kemp.
Merci beaucoup.
http://atelier.rfi.fr.
Il y a une audience sur Internet aujourd'hui.
Imaginer beaucoup de choses, et notamment une taxe sur les clics sur Internet.
Nous sommes en train de vivre un changement de modèle économique.
Et Internet est le réseau qui bouscule, parce qu'en permanence, on parle de tout.
Le déluge de communication que nous avons a tendance à étouffer un peu l'information.
L'atelier des médias.
Anne-Sophie Novel nous a rejoint par téléphone depuis le sud-ouest de la France. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste freelance, notamment pour Le Monde ou encore la chaîne Public Sénat. Et vous pensez que les journalistes peuvent changer la donne en matière d'environnement et de climat. Est-ce que je me trompe ?
Ah oui, bien entendu. Les journalistes, rien que par le fait de parler de ce qui se passe, déjà, peuvent changer la donne. Il y a quelques années, il était encore très compliqué de parler de climat et d'environnement. Ça passait toujours derrière la politique ou l'économie, ou des sujets estimés comme étant plus importants. Mais aujourd'hui, ça nous rattrape. Et on voit bien, Le Monde fait plus de une sur le sujet. L'écologie est en train de devenir un mouvement populaire. Ce n'est plus juste un problème scientifique, mais un problème social. Et donc, il mérite d'être traité au même niveau, si ce n'est devant les autres.
Et donc, très concrètement, vous avez observé ces dernières années, disons en gros depuis l'accord de Paris sur le climat en 2015, c'est ça, un changement dans la façon dont les médias et les journalistes parlent du climat ?
Les journalistes sont amenés à en parler plus fréquemment parce qu'il y a plus d'actualité autour du sujet et qu'il y a une accélération en fait des éléments et des paramètres qui fait qu'on doit en parler. Au niveau de la couverture de ces questions, régulièrement à toutes les COP, les médias se sont mobilisés. En 2009, lors de la COP 15 en Danemark, qui était très attendue, il y avait eu des unes communes faites par des médias, mais ça s'arrêtait là. De plus en plus maintenant, on a des semaines, voire deux semaines, voire 3 semaines en ce moment sur France TV ou France Info, des sujets faits pour en parler. Donc l'essentiel, c'est que ça infuse, mais surtout que ça devienne une grille de lecture, un prisme transversal pour traiter l'actualité.
Pendant la COP21 à Paris, il y a 3 ans, vous aviez créé un lieu appelé Place to Be pour faire converger journalistes, blogueurs, ONG, artistes, citoyens. Et et mobiliser la société civile autour des enjeux climatiques. Avec le recul, quelles leçons tirez-vous de cette aventure ?
Eh bien, cette aventure, elle nous a permis de semer des graines. Et aujourd'hui, on voit bien que quand des artistes s'en emparent, quand des youtubeurs s'en emparent, ça permet d'y multiplier les audiences et la façon d'en parler. Et donc, on parle beaucoup de la manière dont on peut créer de nouveaux récits, essayer justement de changer cette grille de lecture du monde. Et tout ce petit monde qui participe. Donc, les journalistes ont un rôle, mais les autres médias, youtubeurs ou podcasteurs ou artistes, enfin, tous ceux qui créent, en fait, une forme de contenu et de moyens de communication ont un rôle à jouer. Et donc, ce lieu permettait de réunir des gens qui œuvrent à ce niveau-là. Et je crois savoir qu'en Pologne, il y a un lieu qui sera aussi de cette nature, qui est coordonné par Greenpeace. Et avec Place to Be, on aura deux représentants de l'association sur place.
La question que j'ai posée en début d'émission, j'ai envie de vous la poser à vous, Anne-Sophie Novel. Comment informer sur l'urgence climatique ?
C'est compliqué, on va pas se cacher. Il faut donner des faits, et les faits, parfois, font un peu peur. Donc, nous-mêmes, en tant que journalistes, on doit apprendre à en parler en étant juste, mais en expliquant aussi qu'il est possible d'avoir des réponses. En fait, je suis dans une approche où maintenant, je pense qu'on ne peut plus simplement investiguer et montrer des choses qui nous plombent, hein, et puis laisser les gens en plan avec cette information. Je pense qu'il faut aussi donner des plans B, ça c'est un peu ma grande phrase, mais c'est vraiment dire, voilà, il y a des choses qui se passent, qui sont dangereuses, qui nous mettent en danger, qui sont des menaces, mais il y a aussi des façons d'apporter des réponses à tout ça. Et du coup, le rôle du journaliste doit être aussi un peu celui de médiateur, qui pousse et qui éclaire ce que la société civile peut mettre en œuvre pour y répondre.
Merci beaucoup Anne-Sophie Novel. Je précise que vous travaillez sur un documentaire, Les médias, Le Monde et moi, qui s'intéresse à l'écologie et aux médias. Et nous ne manquerons pas d'en reparler dans l'atelier des médias. À bientôt.
Merci, à bientôt.
C'est presque la fin de cette émission, l'heure de notre nouveau rendez-vous avec Mondoblog. Mondoblog, c'est une communauté de plus de 750 blogueurs francophones. C'est désormais leur voix que vous pouvez entendre dans Mondoblog Audio. Direction la Guinée avec Hippolyte du blog Guinée Verdure. Ceci n'est pas une fiction.
Sur la côte ouest de Guinée, un village de pêcheurs, Kitikata, est menacé par la montée des eaux. L'absence de route et la vie difficile ont contraint de nombreux habitants à migrer vers les localités avoisinantes. Ceux qui sont restés sur place sont condamnés à vivre avec les intempéries. Kitikata se trouve entre l'océan et le marais sur le littoral. Ici, le réchauffement climatique frappe les côtes. Chaque année, une bonne partie de la terre ferme est engloutie par les eaux. Un habitant du village m'a raconté qu'autrefois, le littoral était couvert par les plantations de bananes. Mais aujourd'hui, l'eau et le sable les ont remplacés. Les villageois sont obligés de céder de la place à l'eau tous les ans. Pendant la saison pluvieuse, la précarité des habitations inquiète. La pluie tombe, accompagnée des vents violents. Souvent, les cases n'y résistent pas. Une vingtaine de familles de Kitikata a dû fuir et vit désormais ailleurs. Pour le chef de port de Kitikata, c'est un drame, car les villageois n'ont nulle part où aller. Ce village est tout ce qu'ils ont de précieux. Grâce aux produits de la mer, le quotidien est gagné. Ce n'est pas facile de rester ici, mais partout dans le pays, il y a des difficultés. Les villageois espèrent que leurs conditions de vie changeront un jour. Mais pour l'heure, l'eau continue d'avancer sur la terre ferme de Kitikata. Si rien n'est fait, les risques sont élevés que ce village du littoral guinéen soit définitivement rayé de la carte du pays.
Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'article d'Hippolyte sur mondoblog.org. C'est la fin de cette émission qui a été préparée avec Camille Sarrazin, Léo Caravagna et Camille Deloche. À la réalisation, Simon De Creuse. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast de l'Atelier.